Notre invitée qui est la fille cachée de Marilyn Monroe et de Thierry Leluron. C'est une imitatrice inimitable, la seule femme au monde à pouvoir incarner 113 personnes sur scène. Elle a enflammé Las Vegas, était jurée dans X Factor, participé à Danse avec les Stars, fait la première partie de Céline Dion. Cette performeur hors norme nous donne X raisons de l'aimer. Elle est simple, généreuse, talentueuse. Elle est venue nous parler de son Showgirl Tour. L'incroyable Véronique Dicker est avec nous sur Europe 1.
Ça va?
Ça va bien?
Ça va bien!
Vous êtes toujours de bonne humeur, ouais. Véronique Dicker?
Ben, c'est difficile de... Bon, que ça soit... Bon, on a eu tellement de belles semaines ensoleillées. Je me suis évadée du Québec parce que, bon, on en parlait avant d'être en onde. On a eu de la neige, mais c'est pas possible, hein, de vous... Oui, oui, on a eu beaucoup de neige, donc et de venir faire la promotion et de partir la tournée en France, en Europe, c'est super.
Sous ce soleil.
Ouais. Ben ah, oui, ben ouais.
Pour vous, c'est le mois d'août ici. Hein.
Ben oui, voilà. Non, mais, en bikini.
Non, mais même en plein hiver, moi, je vous ai croisé plein de fois, vous êtes toujours pétillante, ouais. Souriante,
vous avez
de
des
bonne
moments
humeur.
De dépression?
Oui, mais juste chez moi. Non, non, mais ça, oui, ça m'arrive d'avoir de... Oui, mais ouais. Oui, quand même, ça m'arrive d'avoir des bas, mais... Mais honnêtement...
Vous avez toujours un enthousiasme.
Oui, mais j'aime tellement mon job. C'est cliché ce que je dis, mais j'aime ça, ma job. Je l'aime. J'aime mon travail. J'aime le fait que je viens faire la promotion du spectacle puis que je suis très contente de ce spectacle-là, entre autres. Puis de venir rencontrer les gens, j'aime ça. Je trouve que ça leur donner du bien pendant la soirée, pendant 1h50, et de leur faire oublier tout ce qui se passe dans
ouais, c'est
le
sûr.
Monde. Je trouve que c'est un privilège qu'on a, nous, en tant qu'entertainer. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais...
Bah, moi, je ne chante pas, je ne danse pas. Hein?
Oui, mais, ouais. Vous,
ouais, mais tu fais rire
mais
les
oui,
gens.
Tu fais rire les gens. On fait du bien aux gens. Et ça fait du bien de savoir ça aussi. Donc,
C'est vrai, tiens.
Voilà. Ah, tu voilà. T'es jamais dit ça, que tu faisais du bien à tous ceux qui venaient te voir?
C'est le titre de l'émission, en plus. Ça fait du bien. Ben vous le savez,
oui,
ça fait
mais
du bien.
Non, mais on ne pense pas à ça forcément. Mais
ah bon, non! Ouais. Moi si, j'ai cette conscience-là à chaque fois que je vois les gens. Souvent, je vois un monsieur qui bien évidemment, a été un peu tiré par sa femme
pour venir au spectacle. Show.
Et là, ils sont dans la première rangée avec les bras croisés. Ils font pas la gueule, mais ils savent pas qui je suis. Et là, moi, je m'acharne parce que je me dis, eh ben, il va finir par sourire, ce monsieur.
C'est un challenge.
Je vais l'avoir. Et donc,
Et vous le suivez.
Oui.
Vous le suivez tout le spectacle. Au début,
oui.
Véronique Dicker, vous vouliez être chanteuse.
Ben oui. Mais j'étais chanteuse, j'ai fait deux albums.
Qui ont plutôt bien marché, d'ailleurs.
Qui ont bien marché, oui. Mais je faisais des spectacles et dans mes spectacles, je faisais des imitations. Je commençais à faire des imitations, mais que pour faire rire les techniciens et mon entourage. Et je les ai intégrés à mon spectacle à un moment donné. Et puis, j'avais plus de réactions sur mes imitations que mon propre matériel.
Ah ouais?
J'ai dit, ah ouais, non. C'est
mais ça a été
bon.
Quand même un déchirement au moment où vous avez décidé de vous lancer dans l'imitation et vous avez dû renoncer à votre rêve de chanteuse
mais
quand même.
Oui, ben oui, parce que moi, mon rêve, je voulais le vivre à travers ma chanson. Puis, mais moi, je disais à mes amis, oui, mais je ne suis pas drôle. Je ne veux pas être drôle, moi. Je ne veux pas faire des imitations. Pour moi, les imitations, c'était égal à un humoriste, une humoriste. Et moi, je me dis, mais non, mais ce n'est pas mon métier. Puis je suis pas drôle, arrêtez. Puis finalement, par la force des choses, j'ai compris que ça pouvait peut-être être quelque chose que je pouvais joindre tout ce que j'avais expérimenté aussi dans ma carrière, entre autres les comédies musicales.
Vous avez joué dans Grease au Québec.
Et dans Chicago
oui,
aussi.
Oui, à Paris.
Ouais.
Mais
et puis...
Au final, vous n'êtes pas chanteuse, vous êtes plusieurs chanteuses.
Ouais,
et c'est
ça.
Génial.
Et en plus, c'est ce que j'ai découvert en faisant les imitations, c'est que je me suis dit... Oh! Chante tous les succès.
Mais oui!
Chante toutes les bonnes chansons, finalement. Et là, je me suis dit, ben arrête, là. Hein? Ah, vas-y. Et puis, donc c'est ça, je me suis lancée. Mais effectivement, au début, ça m'a pris quelques jours.
C'est renoncer à un rêve, en fait.
Ben, tout à fait. Un rêve de petite fille de l'Ontario. Mmh. Vous connaissez peut-être pas l'Ontario, mais c'est la province à côté du Québec qui est entièrement...
C'est comme moi, quand j'ai renoncé à être comédienne de théâtre, qui était mon rêve
ouais,
aussi. Oui,
mais
pareil.
C'est ça!
Oui, mais aujourd'hui, aucun regret, ni pour l'une ni pour l'autre, non?
Non, pas du tout.
Non.
Parce qu'un va peut-être amener à ce
bien
qu'on
sûr.
Veut faire un jour. Et puis, honnêtement, je dois vous dire que j'aime tellement faire ce que je fais que pour l'instant, la chanteuse n'est pas du tout frustrée,
ouais,
au contraire.
Ouais.
Vraiment.
Puis vous chantez tous les soirs sur scène avec
ben,
des musiciens
soirs, ouais.
Et des danseurs. Racontez-nous combien il y a de musiciens et de danseurs dans ce show.
On a quatre beaux musiciens, quatre danseurs masculins qui m'accompagnent et deux filles.
Huit hommes.
Ouais.
Et deux filles.
Ouais. Je revendique la féminité, mais aussi avec les garçons. Ouais. Ben oui, c'est bien.
Donc, c'est un vrai show à l'américaine.
Oui, oui, oui. C'est vraiment...
Avec changements de costumes,
ouais,
des lumières.
On a décidé de vraiment aller au-delà des imitations. J'avais envie d'offrir un bon show. Et aussi, avec une scénographie qui appuie la mise en scène de José Fortier, qui est toujours avec moi, qui est une metteur en scène que j'aime beaucoup. Et qui, avec elle, on a décidé de faire vraiment un emballage, mais sans trop non plus prendre le dessus sur les imitations et tout. C'était plus un emballage pour appuyer les imitations.
Parce que vous avez joué à Las Vegas pendant 2 ans aussi. Ça a été une bonne expérience, j'imagine.
Ouais. Ah, ça, c'était cool. C'était cool, mais en même temps, j'ai eu des trucs pas possibles à Las Vegas.
Comme quoi?
C'est parce que les gens me connaissaient. Il y avait une partie qui me connaissait parce que, bon, c'est des Québécois ou des Français qui venaient me voir. Mais il y avait une très grande partie qui c'était beaucoup des Américains. Et bon, j'en ai eu, moi aussi. Vous savez, Céline qui dit qu'elle a eu des gens qui s'endormaient.
Non,
aussi,
c'est
j'en ai
vrai?
Eu,
hein.
Ah bon?
Oui, des gens qui s'endorment parce qu'ils sont jet-lag et ils sont complètement dans le décalage horaire. Moi, j'ai même eu un monsieur qui a eu un malaise. Mais ça s'invente pas. C'est qu'aux États-Unis, on dirait que ça arrive, ces choses-là.
Et
il y a eu un malaise. Hein? Sa tête a fait bang sur la table. Et là, moi, j'ai dû arrêter le spectacle et expliquer aux gens, bon, on va laisser les paramédics le sortir et tout. Et ça prenait un certain moment parce qu'avant de bouger le monsieur, il fallait savoir ce qu'il avait. Est-ce que c'était cardiaque? Est-ce qu'il y avait le fait... Et le monsieur, il prenait un certain temps à expliquer, oui, non, ça va aller, ça va aller. Et là, à un moment donné, ils ont dit, mais monsieur, il faut que vous nous...
Faut nous dire parce que nous, on
nous
attend le spectacle.
Exactement, qu'est-ce que avez-vous... Et le monsieur a avoué qu'il avait pris une petite pilule.
Ah, le Viagra, c'est pas vrai.
Avant.
Mais pourquoi?
Et qu'il a
avant
fait mal à... Mais je sais pas, peut-être qu'il y avait une...
C'était quoi son projet pendant ce temps?
Il s'est dit ce soir, je finis avec Véronique Guiquette.
Et c'est 6 danseuses.
Faut changer d'ouvreuse, là. C'est les ouvreuses qui...
Vous imitez toutes les grandes stars dans votre spectacle, en Edica. On va écouter Lady Gaga.
Ah oh ouais.
Elles n'ont pas peur, toutes ces chanteuses, de dire qu'en fait, elles peuvent être remplacées à n'importe quel moment.
Mais Céline, elle avait déjà dit, si j'arrive pas à faire les notes, hein, tu viendras dans les coulisses et puis tu chanteras en arrière.
Non, parce que parfois, moi, une fois, j'étais à la maison, je faisais des choses et tout, et puis j'entends Lara Fabian. Et je me dis, ah tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu, et je me tourne, et en fait, c'était vous, mais c'était impressionnant. Non, mais c'était semblable, quoi, l'identique.
Alors, vous êtes devenue très amie avec Céline Dion maintenant.
Oui, bon, non, très amie dans le sens où c'est plus professionnel. Disons qu'elle ne m'appelle pas pour aller faire le shopping avec son pépé, mais quand même, c'est. Non, mais.
Mais elle vous a produite ou.
Elle vous produit. Non,
elle vous a produite.
Oui, en fait, ce n'est pas elle, c'était plus René. On travaillait avec René, puis c'est avec lui qu'on menait la carrière. Maintenant qu'il n'est plus là, forcément, nous, on vole de nos propres ailes, mais ça reste quand même une marraine incroyable.
Mais par exemple, quand vous faisiez sa première partie, vous papotiez tellement pendant les essais, entre les deux spectacles, que du coup, elle arrivait en retard sur scène.
C'est vrai. Et je me cachais, même parce que j'arrive, on a fait l'Asie l'été dernier, et puis je me cachais dans ma loge parce que je savais que si elle venait me parler, ça prenait pas des heures, mais des minutes. Et moi, je m'imaginais le public qui l'attendait et puis l'équipe qui l'attend pour prendre des photos et tout. Je me disais, mais je vais, elle va être en retard.
Ça va tomber sur vous.
Exactement. Et l'équipe va venir me dire, cache-toi. Et donc, j'évitais tout ça. Mais parfois, elle venait elle-même dans ma loge. Elle faisait, bon, comment il était le public ce soir? Comment c'était? Et donc là, je me disais, oh non, ben là, je lui expliquais comment ça allait. Mais je la poussais souvent à me dire, allez, va faire ton show.
Mais quand vous faisiez sa première partie, vous l'imitiez, elle, ou pas?
Oui. Ouais.
Et les gens devaient être hallucinés.
Ben, les gens aiment ça parce qu'ils savent qu'elle joue le jeu aussi.
Ouais, bien sûr.
Elle est bonne joueuse, Céline. Puis elle apprécie quand même. Puis je l'imitais en première partie. Puis les gens appréciaient, mais elle aussi. C'est ça.
Mais vous faites surtout
important.
Des imitations chantées, Véronique Dicker.
Oui, c'est ma spécialité.
C'est fini, les voix parlées, vous en faites plus?
Ben, les voix parlées, c'est pas ma spécialité. Puisque je viens de la chanson... Et puis que c'est ma force, ben je me suis dit, allez, je vais me concentrer sur les voix chantées. Je fais, je fais, je, j'ai décidé de faire chanter certains personnages dans ce spectacle-là français, comme Christina Cordula, que je lui ai fait chanter Magna Fike. Et puis, donc, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de faire chanter une voix qui est très typée comme elle. Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'elle chante, Christina Cordula?
Elle chante Magna Fike! Ah là là là! Oh là là là, c'est magnifique, ma chérie, c'est magnifique. Et donc je me suis imaginé comment elle pourrait chanter.
Vous prenez des cours de chant, vous avez une professeure de chant au Québec qui vous explique comment pas vous abîmer la voix.
Exactement, toujours. C'est un entraînement. Pour moi, c'est super important. C'est comme un athlète. Hein? Il faut prendre soin du corps. Et puis, ben moi, je prends soin de ma voix.
Vous dites que vous menez une vie très saine, Véronique Dicker. Pas d'alcool.
Oui, quand je suis en tournée. Sinon, c'est la débauche.
Des fois, vous travaillez des voix. Vous écoutez sur YouTube. Vous allez mijoter un petit plat. Vous écoutez la voix et après, ça vient.
Ben, c'est ça. C'est comme ça que j'ai trouvé Edith Piaf entre deux carottes. Je cuisinais et puis... Et ça m'embêtait parce que quand j'imitais Edith Piaf au début, je trouvais trop que ça faisait caricature. J'aimais pas ça. Puis je me disais, Véronique, imagine-toi la Canadienne qui va aller imiter Edith Piaf. Imagine une Française qui vient imiter Céline Dion. Il faut quand même être juste et faut avoir un minimum de respect puis pas d'essayer de caricaturer. Et donc, je cuisinais et à un moment donné, j'ai dit, oh, ça y est, j'ai comme eu l'appel de la voix. Et j'ai essayé, puis j'ai trouvé. Et donc, j'ai tout lâché, mon dîner, ma préparation de dîner. Et puis, pour aller essayer de travailler, parce que j'avais trouvé le
Ça
le
donne
filon.
Quoi, Edith Piaf, alors?
Ben, Edith Piaf, en fait, pour ce spectacle-là, j'ai décidé de m'imaginer ce qu'elles chanteraient, les chanteuses aujourd'hui, comme Edith Piaf et Dalida. Qu'est-ce qu'elles chanteraient en 2019? Et c'est sûr que Edith Piaf chanterait une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est sûr.
Ah ouais?
Et oui, oui. Il lui ferait chanter « S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. » Je suis sûre que je chanterais ça.
Hein? Non, mais c'est... Génial! Alors, vous êtes sur scène pendant 1h50 sans arrêt.
Ouais, c'est parce que moi, je j'aime pas les entractes parce que ça veut dire que la voix, pendant une demi-heure, je dois arrêter, ouais. Ça retombe et là,
ça recommence.
Ah, c'est pas bon, j'aime pas ça. Et en même temps, j'aime mieux faire une intro de spectacle forte et puis de faire une espèce de montée pour qu'on ait une grande finale. Parce que quand on a des entractes, les gens s'en rendent pas compte, mais ça veut dire deux intros, deux finales. Hein, c'est dur. Ben, en fait, pour moi, c'est difficile. Mais je sais pas pour d'autres. Mais moi, je me dis, allez, on part. Allez faire votre petit pipi avant. Allez, on part pour 1h50 et puis go.
Alors, vous imitez dans ce spectacle, Véronique Dicker, des nouvelles chanteuses comme Aya Nakamura Angèle.
Oui, ben, c'était des incontournables, à mon avis. Ce sont des chanteuses qui se sont démarquées beaucoup sur la scène musicale. Mais aussi, j'ai gardé des classique, parce que, bon, je me dis, Edith Piaf, bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais Céline Dion,
bien sûr,
il faut que je la garde, mais je voulais
mais
plus...
Mais vous en avez marre de chanter Titanic.
Mais oui, voilà. Ouais. Mais je pense qu'elle aussi, peut-être. Mais, ouais, non, mais donc, je me suis dit, allez, on va construire une comédie musicale autour de Céline. Donc, on fait une espèce de survol de sa vie en comédie musicale, mais vraiment à l'américaine, avec les questions en chantant, les danseurs qui se transforment en journalistes.
Ah, génial.
Oui, donc, on a décidé de prendre ces voix-là, ces espèces de classiques, et de les amener ailleurs. Et puis, il y a des nouvelles... Je devrais pas dire ça, c'est pas gentil, mais des nouvelles vieilles voix. Comme je fais un survol aussi de toute cette époque yéyé des années 60, avec Sylvie Vartan, Geneviève Grade, Saint-Tropez. Donc, j'avais envie de toucher à cette époque parce que je trouve que c'était tellement beau, les Scopitones à l'époque.
C'est pour le show spécialement en France ou à l'international, vous faites aussi toutes ces chanteuses françaises?
Au Québec, on a le même principe, mais pas du tout les mêmes chanteuses.
Ouais.
Donc, le spectacle en France, il est
il y a deux versions
adaptées.
Ouais.
Mais je dois vous dire que je suis très contente de ce qui se passe avec ce que j'ai. Et puis, avec la tournée qu'on a fait avec Céline aussi l'été dernier, il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui m'intéressent beaucoup également, où il y a eu une très, très belle réaction. Donc, on verra pour l'anglophone, mais ça va bien.
Star internationale, Véronique Dicker.
Bon, quand même.
Bah, quand même. Vous faites pas, faites un peu la fille prétentieuse.
Arrêtez-vous là.
Montrez-nous ce que ça donnerait Véronique Dicker prétentieuse.
Mon Dieu. Alors, ben, je me moie, je sais pas. Ah non, je suis pas capable, honnêtement.
Vous n'êtes pas capable, malgré tous ces succès, vous n'avez pas la grosse tête.
Ah non, ben non, parce que, arrêtez, on sauve pas des vies quand même. Je veux dire, on fait du spectacle. On est là pour donner, on est là pour offrir quelque chose. Moi, c'est vraiment... c'est sûr qu'il y a un égo, il y a un petit égo qui est là. Puis c'est normal, sinon je pense que si on ne l'avait pas, ça ne nous mettrait pas en avant-scène.
Mais vous avez l'exemple de Céline aussi qui est resté très simple.
Oui, 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 très simple. Mais en même temps, je me dis que la vie, c'est ça, mais c'est d'autres choses aussi en même temps. Hein. C'est important. Dans le spectacle, on offre un service, on offre du bonheur. Moi, non. Moi, au début, quand je suis arrivée ici, les producteurs avec qui on travaillait, ils voulaient m'offrir un chauffeur. Et là, je fais « Ah, OK, un chauffeur, c'est comme ça que ça fonctionne ici. » et du coup, j'arrive et le chauffeur, il nous conduit. Puis Raymond et moi, mon conjoint et mon manager, on voulait parler. Et on était en arrière de la voiture, on faisait « Ah oui, on entend... On n'entamait pas de discussion parce qu'on n'avait pas que le chauffeur nous entende. Et là, on était gênés, ah ouais. Puis on était timides. On dit, mais non, mais c'est pas possible. Et donc, on a fait, non, ça va. Hein,
donc, qui conduit alors?
C'est nous, c'est Raymond. Ouais,
c'est Raymond. Ah,
c'est ça.
Alors, Raymond,
le GPS dans l'étoile, l'ego. Si vous voyez des Canadiens comme ça, c'est nous.
Mais Raymond, vous l'avez rencontré à 15 ans?
Ouais.
C'est le premier homme que vous avez connu?
Lui, il avait 21.
Le seul homme?
C'est un peu comme René et Céline, finalement.
Ben, c'est un peu comme oui. Oui, oui, c'est le seul chum, comme on dit chez nous, que j'ai eu, oui, effectivement. Ouais. Et c'est mon... Ah oui, puis moi, ça a été le coup de foudre, mais je lui ai pas avoué mon âge, bien évidemment, au début. J'étais un peu maligne. Ouais, parce que lui, il avait 21, et moi, je savais qu'il avait 21 ans, et mes parents aussi. Et donc...
Vous avez dit que vous aviez quel âge?
Ben, je disais pas.
Ah oui, mais lui, il vous a pas demandé?
On sortait en boîte et je disais que j'avais oublié mes cartes d'identification. Je disais, ah, merde, j'ai oublié mes cartes. Et puis, il dit, ah, c'est pas grave, je connais le portier, heureusement. Et les portiers, souvent, c'était mes cousins, pouvez-vous imaginer? Ils me regardaient comme ça, ils faisaient,
Elle me va te coucher.
Ouais. Et là, je disais, ben, ma mère, elle veut que je sois ici. Ah, écoutez, c'est les histoires. Mais après deux week-ends de fréquentation, c'est là qu'il m'a demandé, genre, mais quel âge as-tu? Est-ce que tu peux conduire? Je dis, non, pas encore. Mais je vais avoir 16 ans bientôt. Et puis, oh! Et là, il a été un peu choqué, mais il a bien compris. Et mes parents aussi ont bien compris que c'était une relation qui était sérieuse. C'était pas juste un amourette comme ça.
Ça on fait combien de temps alors maintenant?
26 ans.
26 ans!
Wow. Ouais. Et c'est toujours aussi cool, honnêtement.
Ah ouais?
Ouais, ouais, ouais. Yeah.
Ouais. Félicitations.
C'est beau.
Merci beaucoup.
Quelqu'un qui n'est pas en couple depuis 27 ans, Véronique Dicker, c'est Laurent Barra.
Qui n'est pas en couple du tout, d'ailleurs.
Voilà, Laurent Barra a décidé de vous défendre, Véronique Dicker.
Ah oui.
Madame la Présidente, mesdames, messieurs du jury, ma cliente est innocente. À titre de comparaison, j'ai moi-même quelques aptitudes à l'imitation. Femme, je vous aime. Oui, oui, oui. Eh bien, je peux vous l'assurer qu'étrangement, Julien Clerc dort sur ses deux oreilles. Madame la Présidente, ma cliente n'est pas coupable. Ses imitations font du bien. Elles m'ont d'ailleurs sauvé de la faillite. Dans une autre vie, à l'époque où je croyais en la vie de couple et toutes ces niaiseries, je t'aime, est-ce que tu m'aimes, c'est toi qui raccroches en premier, non c'est toi, voilà, bref, j'avais assisté en amoureux à votre premier spectacle et je voudrais devant la cour vous remercier Véronique Dicker du fond du cœur. Car ma compagne de l'époque était une vraie mélomane, fan de Madonna, Lara Fabian, Céline Dion ou autre Mylène Farmer, chanteuse qu'elle rêvait de voir en concert. Et si l'homme amoureux que j'étais avait dû, malgré ses faibles revenus, l'inviter au spectacle de ses 5 stars internationales à 90€ la place la moins chère, fois 2, plus les agios, les frais de découvert, sans compter l'aimable participation de Cofidis, Sofinco, CTLM et Mediatis. Bref, en réunissant ses idoles sur scène, sur une même scène, à la force de ses cordes vocales, le talent de ma cliente m'a fait économiser 900 balles. Alors oui, Madame la Présidente, ma cliente a beaucoup imité. Oui, Madame la Présidente, ma cliente a voulu récolter le maximum de voix sans pour autant faire de la politique. Et à une époque où certains machos veulent éclipser la voix des femmes, en mettre autant sur scène dans un même spectacle revêt quelque chose d'essentiel. Alors, pour toutes ces raisons, je réclame la relaxe pour ma cliente et vous invite tous et toutes à assister à son nouveau spectacle, car à coup sûr, vous en sortirez sans voix. Oh!
Vous allez faire après, Véronique, dire vous partirez en tournée au Québec et après
Vous voulez dire après
Oui, après ce spectacle.
Elle va couper du bois.
Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est une tournée qui va s'échelonner jusqu'en 2021. Alors, oui, j'ai le temps de savoir ce que je vais faire.
Peut-être vous n'allez pas boire jusqu'en 2021.
C'est ça. Non, cet été, j'ai congé. Ah, bon, mais je ne sais pas. Il y a plein de choses. Je suis une curieuse. J'adore. J'aime beaucoup notre métier, puis je suis une curieuse aussi de nature. J'aimerais peut-être un jour faire du théâtre. J'aimerais bien toucher les planches, mais différemment, avec le théâtre, peut-être.
Comédie musicale?
Oui, ça, c'est le fun aussi. Les comédies musicales, parce que ça rejoint tout ce que je fais. Et puis, peut-être que je vais être à la retraite. Déjà, mon corps n'en pourra plus d'imiter Lady Gaga. Mais je sais pas. Moi, mes intérêts, j'aime encore faire beaucoup de la scène, donc peut-être que je reviendrai peut-être avec un autre spectacle, mais pour l'instant, c'est vraiment, on est vraiment concentré sur ce qui se passe.
Votre père était une famille de 13 enfants, quand même beaucoup au Québec.
Oui. Typique d'une famille francophone, francophone canadienne, 13 enfants, je vous jure.
Mais dans votre famille, vous étiez combien, vous?
Nous, on est deux. J'ai un petit frère plus jeune que moi, 4 ans plus jeune que moi. Pas du tout dans le métier, mes parents non plus. Mais je viens d'une famille où on aimait la musique, on chantait des chansons folkloriques, des chansons à répondre.
Des chansons à répondre?
Des chansons à répondre?
Non.
C'est Chevalier de... Non, ça, c'est pas un bon exemple, parce qu'on répond pas. Mon père ainsi que ma mère n'a avec moi un enfant. Et là, il faut que les gens chantent. Mon père ainsi que ma mère n'a avec moi un enfant. Ouais, voilà, c'est des chansons à répondre.
Il faut un petit peu de vin blanc pour ça. C'est dur.
Je sais, effectivement, il faut le... Mais donc, on faisait des... mes oncles et mes tantes ont des voix super, mais jamais qui ont fait carrière dans
Ils sont tous fiers de vous.
Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai eu une tante qui est venue à Las Vegas, puis elle m'a dit, tu sais, mes grands-parents d'Icare s'appelaient Roméo et Cécile. Et puis elle m'a dit, tu sais que Roméo et Cécile doivent être vachement fiers de toi. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'ils aimaient tellement ça, mes grands-parents, nous voir chanter à la maison. Et puis ils nous suivaient. Hein. Moi, j'ai eu la chance de les avoir, pas au début de ma carrière d'imitatrice, mais au début de ma carrière, ils venaient voir mes spectacles. Et puis j'ai eu la chance de les avoir dans la salle. Et franchement, ils étaient super contents, super fiers. On vient d'une belle famille puis qui se tient. Puis moi, je sais pas combien j'ai de cousins, cousines, puis on se connaît tous, on se voit tous.
Et quand vous avez des repas de famille, ils vous demandent de chanter ou pas?
Non, ça va. Ils savent que c'est mon métier. Et puis,
Donc ils vous embêtent pas avec ça.
Moi, je préfère les entendre chanter. Je leur dis, oh non, chantez pour moi, j'aime ça, moi. Donc, ouais.
Léa Lando a des questions à vous poser, Véronique Dicker.
Oui, Véronique Dicker. Alors, bon, on l'a dit plein de fois, on vous appelle la femme aux 113 voix, alors que moi, on pourrait presque m'appeler la femme aux 113 ruptures. Et si on demandait à mes ex de parler de moi, ce serait sans doute pas très joli. Alors, je me suis demandé ce que diraient toutes ces femmes représentées par vos 113 voix si on leur posait la question. Donc, je suis allée les voir, je leur ai demandé leur avis. J'ai commencé par les plus anciennes, notamment une de vos idoles, Patricia Cass. Oui. Alors, Patricia Cass, ça vous a fait quoi de savoir que Véronique Dicker allez vous imiter.
On a toujours peur que la voix soit enrouée, qu'il n'y en ait pas, qu'est-ce qu'on fait?
On fait semblant d'aimer et puis on salue la performance, non? Vous ne le feriez pas, vous, d'imiter quelqu'un que vous aimez, Patricia Cass?
Moi, je serais flippée, j'aurais beaucoup trop peur, c'est impossible.
Chuchote. Et alors, évidemment, Véronique Dicker, je ne pouvais pas passer à côté de celle qui a tout permis, en tout cas que vous l'imitiez aussi, Céline Dion. Racontez-nous ce qui vous a sauté aux yeux la première fois que vous avez vu Véronique Dicker. C'était quel genre de fille?
Une fille qui se bat pour sa vie, qui est sur le trottoir.
Sur le trottoir, carrément. Vous décidez de la prendre sous votre aile. En tout cas, c'est ce que votre instinct vous a dit de faire quand elle a chanté ça.
C'est ce que j'ai ressenti au moment où, où j'ai entendu « Ah, 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 ah. »
Ah ouais, mais là, elle était co-vocalise, hein, vous savez, Céline Dion. Et après, quand vous l'avez vraiment entendu chanter et vous imiter Céline Dion, vous vous êtes dit quoi ?
J'ai récolté quelque chose d'extraordinaire au-delà de la musique, au-delà de l'industrie.
Ah ouais, je comprends. Et alors, c'est quoi Véronique Dicker pour vous aujourd'hui, Céline Dion ?
C'est mon plus beau cadeau.
Ah bah ouais, ça c'est sûr. Et alors après Céline Dion et les anciennes, hein, sont apparues les nouvelles voix, on en parlait tout à l'heure. Angel, parce qu'Angel c'est aussi une des nouvelles voix que vous imitez. Être imité par Véronique Dicker, ça fait quoi ?
C'est des choses qui fonctionnent pas bien ou dont on aimerait séparer ou qui servent à rien.
Et alors on en parlait, Aya Nakamura. Alors il paraît que vous êtes la nouvelle voix très en vogue, imitée par Véronique Dicker.
C'est la deuxième fois qu'on me le dit, hein, je tiens juste à préciser.
Et enfin Jane, que vous imitez aussi à présent, Véronique Dicker. Jane, un mot pour conclure ?
Non, pas du tout, non.
Bon, merci Jane. Alors, et vous, Véronique Dicker, un mot pour conclure alors ?
Merci, c'est un bel hommage.
On va justement écouter un extrait de Véronique Dicker qui imite Jane. Véronique Dicker, on a une tradition dans cette émission. Allez. C'est l'histoire de la semaine.
Europe 1, Anne Romanoff.
L'histoire de la semaine.
Alors le principe est simple, on a dit on commence une histoire, nous invitons la semaine la complète les uns après les autres jusqu'au vendredi avec chaque fois un mot obligatoire à tirer au sort dans ce chapeau. Quel mot vous avez tiré ?
Las Vegas.
Las Vegas. L'histoire a été démarrée lundi par Michel Larocque, poursuivie mardi par François Bégodeau, hier par Stéphane Guillon. Et à vous, Véronique Dicker, de la poursuivre en une ou deux phrases aujourd'hui avec le mot Las Vegas.
Alors, c'est l'histoire d'un brillantissime garçon qui faisait des études d'orthodontie. Et un jour, à côté de la fac, il rentre dans une boulangerie.
Et on lui propose une épilation intégrale. Alors, il s'étonne. Et on lui dit, mais suivez-nous entre les murs, vous verrez, nous allons vous épiler. Il sort sans aucun poil sur le corps. Quelqu'un lui dit, non mais à mon avis, tu sais, toute cette histoire, c'est de l'humour noir. Et comment ça, de l'humour noir ? Oui, je pense que c'est de l'humour noir. Le gars ne comprend pas pourquoi on lui dit ça. Il cherche, et il va trouver la raison.
Il trouve la raison, oui, il se trouve, parce que finalement... Il termine en faisant un spectacle qu'il a monté, en fait. Toutes les dents croches, l'épilation et tout ce qu'il a fait. Il avait un artiste en lui caché. Il est devenu imberbe, il s'est maquillé et il a fait finalement un spectacle à Las Vegas qui a cartonné.
Nous recevons un homme de télé, un producteur, un animateur, un présentateur, le meilleur ami du père Fouras, celui qui n'a rien à Joker, mais qui voudrait bien être Batman. Un homme qui va aujourd'hui nous dire un mot sur les speakerines. Ce midi, notre invité est Olivier Mine.
C'est une rockstar.
Ah ouais. Ça ne nous rajeunit pas.
Bonjour Olivier Mine.
Bonjour Anne Romanoff. Bonjour à tous.
Vous avez l'air en forme. Vous avez bonne mine, Olivier.
Non, non,
non. Anne Romanoff, 30 ans de carrière.
C'est normal. Vous allez souvent au charbon, Olivier Mine. Non, non, j'ai mis les plaisanteries pourries sur votre prénom dès le début. Comme
fait.
Ça, vous serez tranquille pour le reste de l'interview.
Merci pour lui.
Ça va, je vous ai pas trop miné ?
Pas du tout, c'est vrai que je vous aime.
Ce midi, Olivier Mine, ce n'est pas le beau gosse de France Télévisions que nous recevons, mais l'auteur de Speakerine, une histoire des femmes à la télévision, publiée aux éditions du Rocher.
Je connaissais pas cette édition. Moi, je connaissais les Ferrero Rocher. Enfin, vous, Olivier Mine, vu le galbe de votre cuisseau, vous devez pas en manger souvent des Ferrero.
J'en mange, figurez-vous, pour tout vous dire. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'un livre des éditions du Rocher ne sont pas uniquement lisibles dans les ambassades et lors des soirées de l'ambassadeur. Humour double tech.
Dans ce livre, Olivier Mine, vous revenez sur votre parcours, sur vos débuts à la télévision, mais aussi sur cette profession qui a disparu, les speakerines. Alors, qu'est-ce que c'était une speakerine ? C'était une femme filmée, assise, généralement jolie, qui donnait les programmes tout au long de la journée.
Exact, tout à fait. Vous avez bien résumé ce qu'était la fonction d'origine.
Alors, vous évoquez Jacqueline Joubert, Catherine Langeais, Denise Fabre, Fabienne Egal, Évelyne Leclerc, Anne-Marie Pesson. Et ces speakerines aussi étaient chargées de meubler lors des fréquentes coupures d'antenne.
C'est une fameuse coupe.
Oh, veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée du programme, indépendant de notre volonté.
Et là, il y avait la petite musique, celle qui vous fait langoureusement patienter.
Et elle devait, non mais c'était pas évident à l'époque, elle devait annoncer les éditions spéciales, les flashs, plein d'événements imprévus, ce qui arrivait souvent pendant les débuts artisanaux de la télévision.
Exact, Jacqueline Cora par exemple a dû, alors qu'il n'y avait plus personne à la rédaction de la RTF à l'époque, c'est elle qui a dû annoncer la mort... J'ai pris un coup de micro sur le... c'est elle qui a dû annoncer la mort, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en direct à la télévision, puisqu'il n'y avait plus de journaliste.
Si vous êtes intéressé à cette fonction, c'est que vous-même, Olivier Mine, vous avez été un speakerin.
Exact, c'est ainsi malheureusement qu'on nous dénommait.
Le premier speakerin de la télévision.
Le dernier.
Le premier et le seul.
Non, le premier c'était Patrick Simpson-Jones.
Donc le deuxième.
Non, j'étais le septième.
Olivier Mine, après, Jacqueline Joubert vous a appelé d'un coup pour lancer un match de rugby au Parc des Princes et on vous a dit il faut être là dans 30 minutes, vous avez traversé Paris, sauté dans un caleçon.
Oui, c'est ça, parce que j'étais dans un caleçon déjà, mais j'ai sauté dans un pantalon par contre. Ouais. Et c'est vrai que je suis arrivé à Antenne 2, parce que ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, avenue Montaigne, en 15 minutes à peine, j'étais à Place de la République. Pour ceux qui n'habitent pas Paris, autant vous dire qu'aujourd'hui c'est absolument mission impossible de faire la traversée.
Aujourd'hui c'est deux jours.
En trottinette.
Et je me suis retrouvé à devoir faire une annonce sponsorisée pour une fameuse banque. La speakerine qui était de service ce soir-là n'avait pas voulu faire parce qu'elle demandait un cachet supplémentaire. Et moi, j'étais pas du tout prévu au planning. J'étais prévu un mois et demi plus tard. Autant vous dire que la mise en bain a été violente. Et surtout, quand on m'a dit, il faut pas se tromper sur les derniers mots à dire lors de cette annonce, car le président de la République, qui aura dans le viseur l'écran de contrôle de l'antenne de la 2, fera son entrée quelques temps après ton annonce. Donc c'était double peine.
C'était
pour
qui
moi.
Le président de la République à l'époque?
François Mitterrand. Ah oui. 1990.
Ça date d'il y a un petit moment. Hein.
Oui, j'ai commencé sous François Mitterrand et je suis né sous le général de Gaulle. Je vous emmerde aussi. L'information vous était parvenue.
Alors, comme les dinosaures, les speakerines ont disparu de l'antenne. Elles ont été anéanties par une météorite, appelée la voix off.
Appelée les bandes annonces, appelée la publicité et appelée aussi la télécommande. C'est vrai, tout ça, ce sont les météorites qui ont précipité la speakerine dans l'oubli.
Alors, vous ne dessinez pas au départ à devenir une star du petit écran, Olivier Mine ?
Star, non, sincèrement, je ne le suis toujours pas. Mais je n'étais pas destiné en effet à faire de l'antenne. Moi, j'étais venu à Paris pour être sur les planches.
Comédien ?
Oui.
Et cours de théâtre ?
Un cours de théâtre, donc. Et puis l'idée de... Et puis j'ai croisé le chemin de Jacqueline. Et puis tout à fait.
Jacqueline Joubert, donc la maman d'Antoine Decaune.
Tout à fait.
Et elle a flashé sur vous, en fait.
Enfin, je finirai par le croire, parce qu'en tout cas, elle a senti qu'il y avait quelque chose, alors que moi, très sincèrement, je ne sentais rien.
Il paraît que vous aviez une voix blanche, des boules dans le ventre, des papillons dans l'estomac.
Terrible, terrible. Elle m'a fait passer une audition de 5 jours. Sincèrement, ici, autour de cette table, il y en a plein qui ont peut-être passé des auditions.
Oui.
Et qui savent. Donc,
le jour, la nuit. Ouais. Enfin.
Généralement, tu passes une audition de 2 minutes, 3 minutes, et ensuite, un assistant.
Je tiens
pas avec
un
Romanov. 5 jours. 5 jours. 5 jours, c'est une audition à l'Harvey Weinstein.
Donc pendant 5 jours, elle m'a fait venir.
Elle me fait venir et chaque jour, pensant que je vais m'améliorer, et chaque jour c'était pire. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est le dernier jour, le moment où donc elle me prévient d'ailleurs, elle me dit écoutez là maintenant, voilà, l'ultime fois que je me plante, alors que je ne m'étais jamais planté au niveau du texte. J'étais mauvais, mais je ne me plantais pas au niveau de l'apprentissage du texte. Donc là, j'ai un énorme trou de mémoire. J'improvise parce que je sens bien que si je n'improvise pas, ça va être encore plus misérable que ce que ça avait déjà été. Et c'est parce que je me suis mis à improviser qu'elle m'a gardé. Parce qu'elle m'a dit, c'est ça que je cherchais. Je cherchais de savoir si vous alliez être capable ou non, en direct, de pouvoir rebondir, de retomber sur vos pattes, suivant toutes circonstances qui pourraient se présenter à vous. Et comme c'était aussi un des éléments qui était constitutif de la fonction de speakerine, c'est ainsi que j'ai fait mes débuts sur la 2.
Alors, Olivier Mine, vous représentez un espoir pour ceux qui sont complexés par leur corps.
C'est vrai.
Parce que vous nous avez prouvé qu'avec pas mal d'efforts et beaucoup de volonté, on peut passer du corps d'un ado président du club d'échecs de son lycée à la carrure d'un homme beau et fort qui, s'il le voulait, pourrait devenir le prochain James Bond.
Ou vous Superman, vous avez une tête à jouer Superman.
Vous trouvez vraiment?
Non, c'est un compliment, Olivier Mine. Sinon, j'aurais dit Spider-Man parce qu'il porte un masque. Non, mais vous avez fait un travail incroyable sur votre corps, quand même.
Mais sincèrement, en fait, ce qu'il y a, c'est que surtout, je me suis mis au sport, non pas pour changer de silhouette, mais je me suis mis au sport parce que c'était important pour moi de me reconnecter avec la tête. Et ce corps que j'avais délaissé, finalement, devenait un tel handicap, même quand je ne faisais plus rien, surtout quand je ne faisais plus rien.
Il n'y a plus de travail à un moment.
Ça
a duré combien de temps, cette traversée du désert?
Très sincèrement, beaucoup moins dramatique que pour certaines ou certains. Ça a duré en tout un an, donc on ne peut pas dire non plus que le désert a été très grand à traverser.
Qu'est-ce qui vous a sorti du désert
Ce qui m'a sorti du désert, c'est un peu long à expliquer, mais ce sont les Américains.
Vous habitez toujours à Los Angeles?
J'habite toujours parce que c'est une terre de renaissance. Les terres de renaissance, ce n'est pas à la radio comme ça, en 15 secondes qu'on explique ce que ça veut dire, mais tous les expats et tous ceux qui, en tout cas, ont dû à un moment donné, quand je dis ont dû, on se sont sentis obligés de devoir partir pour pouvoir avoir rendez-vous avec eux et se réinventer, comprendront ce que je veux dire.
Vous passez des castings aux États-Unis, Olivier Mine?
J'en ai passé. Moi, je ne suis pas parti du tout là-bas après, quand je suis installé comme résident. Je ne suis pas du tout parti là-bas pour faire carrière en tant que comédien. Mais c'est vrai que, parce que c'est amusant de le faire, j'en ai fait quelques-uns. Et les castings, les auditions à Hollywood n'ont absolument rien à voir avec les auditions ici à Paris.
Ça se passe comment?
D'abord, parce qu'on est entre 80 et 250. Hein, donc,
pour un rôle.
Pour un rôle, oui. Et parfois, c'est pour un rôle, pour une phrase. Donc, forcément, ça calme. Et puis, au-delà de ça, là-bas, ce qui est très bien vu, c'est d'arriver déguisé. Ce qui ici serait la pire des choses. Bon, on pensait que vous êtes le dernier des ringards, que vous allez finir.
Donc vous jouez un rôle de flic, vous arrivez habillé en flic.
Ah ben c'est-à-dire, moi j'ai fait un cast pour un rôle de militaire. J'avais 80 Rambo, alors avec des Rambo très différents, hein, bien sûr, des déclinaisons de Rambo qui se trouvaient avec moi. Un jour, j'auditionnais pour un rôle de gynécologue et ils sont tous venus avec leur spatule, leur.
C'est
effrayant. Avec leur lampe frontale, leur blouse blanche et leur stylo bic. C'était absolument effrayant. Vous faites ça à Paris, vous êtes viré avant même d'avoir passé l'audition.
Vivement qu'ils fassent un remake de Mon curé chez les nudistes. J'aille postuler.
Et vous, est-ce que vous avez déjà été pris dans un casting américain, Olivier Mine?
Oui.
Ah oui? Pour jouer quoi?
Un French lover.
Ah oui? Dans quoi?
Dans
Mon curé chez les nudistes.
Dans une série quoi?
Dans une série que je ne connais pas parce que je ne la regarde pas, mais il paraît qu'elle est très sympa.
Comment ça s'appelle? Comment
ça fonctionne bien? C'est Scandale.
Ah ouais, ouais, c'est génial.
Vous avez
c'est
combien
génial.
De jours de tournage?
Deux jours, mais un jour de tournage réel.
Et il paraît que vous vous levez à 5h30 du matin à Los Angeles, Olivier Mine.
Mais vous savez tout sur moi. Mais il faut dire qu'on s'y est vu et peut-être que j'ai, lors d'une soirée un peu arrosée, dit des trucs que j'aurais pas dû dire et que vous avez retenu.
Oui, parce que, excusez-moi, j'ai tourné à Los Angeles. Et Olivier Mine est venu me voir. Hein.
Ah, je
totalement.
Bah ouais. Ouais.
L'autre, on s'est croisé.
C'était
à
un
Los
immense
Angeles.
Succès. Ouais. La ville entière était là.
Non, faut pas exagérer non plus.
Moi, je suis allé à Argelès, si ça intéresse quelqu'un.
C'est très joli par là-bas, paraît-il.
Ouais,
c'est...
Olivier Mine, you like Los Angeles?
I like Los Angeles, but I keep you more.
Oh.
Tu vois, ça pourrait être sur un t-shirt, ça. I like Los Angeles, but I keep Roumanoff more. Ça pourrait être pas mal.
Mort.
Bon, enfin,
mort.
Là, il y a double sens qui n'est pas terrible à l'oral.
Ouais.
Pas
gentil.
Ah. Mort, à l'oral, ça marche pas.
Mort, faut vraiment mettre l'accent anglais parce que si on le.
Mort.
Ouais. More,
mais alors, voilà. c'est pas bon pour l'empreinte de la planète, ça, de prendre l'avion pour aller à Los Angeles.
C'est pour ça d'ailleurs que j'y vais
en trottinette.
En pagaie. On reçoit donc aujourd'hui Olivier Mine. Alors, vous êtes donc un animateur.
Et il a retiré la veste. Là.
Oh, il se déshabille de plus en plus.
Mais écoute, il fait une chaleur, tu as trop peu de genoux dans ce studio.
On a perdu trois femmes.
Vous avez des vrais muscles, hein?
Oui. Non, mais là encore, je ne m'entraîne plus depuis un an, tu sais.
C'est vrai?
Oui.
Mais vous avez pris des protéines ou des machins comme ça, non?
Pas du tout.
Ils sont bons,
mais
en plus,
par contre,
ils sont très bons.
J'avais, je suppose, un petit, tu sais, un petit reliquat de testostérone qui n'avait servi à rien et qui a été très heureux, qui était très heureux d'être sollicité.
Vous pensez
tout
quelqu'un comme Ben H, qui est quand même
non,
assez
gringalet. Non, mais faut pas exagérer non plus.
Il pourrait, parce qu'il était comme, vous étiez comme Ben H avant.
J'étais pire.
On y reviendra.
Pensez aux gens qui mangent quand même.
J'ai 60 kilos pour 1m91.
On est à l'heure du déjeuner.
C'est pour te dire. Non, mais bien entendu, mais d'abord.
60 kilos pour 1m91.
Ouais.
Ah bah ça va, je suis pas mal.
Mais évidemment, mais vous êtes très bien, athlétique, joli, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de se muscler.
Merci Olivier, vous voyez Anne?
Oui.
Vous voulez qu'on
Elle va vomir.
Olivier Mine, vous passez aussi des semaines dans un fort désaffecté en compagnie de nains priapiques, d'un cuisinier fou, de tiques neurasthéniques et d'un vieillard qui s'exprime que par des périphrases imbitables.
Oui.
Et quand vous faites pas ça, vous passez votre temps à faire jouer des femmes ménopausées à des jeux dont les règles ont été rédigées par des cruciverbistes sadiques, fans de Trivial Poursuite.
Vous avez une vision de moi, professionnellement j'entends, assez cruelle finalement.
Jean-Philippe Vizini adore regarder Fort Boyard, Olivier.
Mais ça tombe bien, parce que moi aussi.
Et ce week-end, ça s'est un peu mal passé. Alors, ce dimanche, mon fils avait invité tous ses copains et il m'a demandé s'il pouvait jouer à Fort Boyard à la maison. Je lui ai dit, pourquoi pas, mais je vois pas comment vous pouvez jouer à Fort Boyard à la maison.
C'est vrai.
Il me dit, t'inquiète pas, papa, on va se débrouiller. Bon, comme il faisait beau avec ma femme, on est parti se promener dans la forêt et on a laissé les enfants jouer à Fort Boyard à la maison. On n'aurait pas dû. Alors, comme ils avaient besoin de clés, ils ont pris toutes les clés de la maison, du portail, de la boîte aux lettres et ils les ont planquées partout dans la maison. Le petit me dit, comme on n'avait pas assez de clés, on a aussi pris celle de la voiture. C'est ma voiture, à moi. Je dis, mais là, elles sont où les clés, là? Il me dit, en haut d'un arbre. Il y a Mathias qui est monté dans l'arbre, mais il n'arrive plus à redescendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à récupérer mes clés. Par contre, le gosse, il est resté là-haut. J'ai regardé la météo. Demain, ils annoncent du vent. Avec un peu de chance, on va pouvoir enfin le récupérer. Je rentre dans la cuisine. Il y avait de la farine partout. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le petit me dit, c'est Kylian. Il a voulu se déguiser en père Fouras. Il s'est versé de la farine sur la tête pour se faire des cheveux blancs. Mais il est où maintenant, Kylian? Il a voulu monter dans la tour comme le père Fouras. Mais comme on n'a pas de tour, il est monté dans la cheminée. Il était tout blanc quand on l'a revu, il était tout noir. Pour faire les tigres, ils sont allés piquer les deux chats des voisins et ils les ont peints en jaune et noir. J'ai dû vider deux bouteilles de dissolvant pour faire partir la peinture. Et deux boîtes de Guronzan pour essayer de réanimer les chats tellement ils étaient shootés à cause du dissolvant. Alors, le week-end prochain, ils m'ont dit qu'ils joueraient à tout le monde à son mot à dire, le jeu de culture générale que vous animez toute la semaine sur France 2. J'espère que ce sera plus calme. Voilà.
J'espère pour vous.
Vous avez jamais pensé faire de la radio, Olivier Mine?
En tout cas, les gens qui font de la radio n'ont jamais pensé à moi.
Mais pourquoi?
Ce qui résout le problème.
Non, mais pourquoi? Vous pourriez?
Mais je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas une voix de radio.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous tripotez là? Qu'est-ce que vous faites là?
Rien, j'avais un bouton qui me gênait, alors je l'ai arraché et je l'ai mis dans mon sac à côté.
Mais on ne fait pas ça, il faut se concentrer.
Mais je suis un peu... Alors, je ne sais pas faire grand-chose en stéréo, mais ça, j'y arrive. Arracher un bouton tout en vous écoutant, je peux encore le faire. Je vous le dis, madame, j'ai bien écouté tout ce que vous m'aviez dit. Vous veniez, par exemple, à l'instant, de me relancer en me disant que, contrairement à ce que j'étais en train de dénoncer, c'est-à-dire le fait que ma voix n'était pas radiophonique, qu'au contraire, il y avait peut-être quelque espoir. Mais vous savez, maintenant, tout ça est fini, tout ça est derrière nous. Moi, je suis une vieille personne, maintenant. Eh oui, il faut laisser la place aux jeunes. Mais évidemment, 52 ans bientôt.
Oh là là,
31 ans.
Non, stop. La patronne a 53 ans. Oui. Officiellement, c'est jeune. D'accord.
Vieux, c'est 54, pas avant ici.
Je vous présente Ben H, Olivier Mine. Il a des questions à vous poser.
Oui, Olivier Mine.
Parce que j'entends toujours mieux quand je vois bien.
Alors, vous êtes myope?
Je suis myope et un peu astigmate. C'est moche.
C'est bien pour le rythme.
Là, c'est un super lancement. Ouais.
Olivier Mine, on le disait, j'ai en tête vos débuts à la télé. J'étais tout jeune, vous commenciez. Vous étiez donc vous aussi très jeune, chétif, avec une chevelure que l'on qualifiera sobrement d'époque. Hein voilà, du coup, sachez que quand je vous regarde aujourd'hui, beau gosse, je me rassure. Moi aussi, un jour, j'aurai peut-être ce que le commun des mortels appelle des muscles et ce que moi, j'appelle des rêves. C'est vrai, physiquement, en quelques années, vous êtes passé de Pierre Palmade à G.I. Joe, et vous avez dit, ce changement physique, c'est avant tout le chômage. De ce point de vue-là, quand on me regarde clairement, on voit que je travaille. Trop peut-être, trop. Aujourd'hui, on est très loin du pôle emploi, Olivier Mine. Vous avez traversé des airs, mais vous avez aussi fini par traverser la rue, parce que là, du boulot, vous en avez. Vous partagez avec Nagui l'ensemble des jeux de France 2. Mais votre première ambition, bien avant la télé, c'est de devenir comédien, on l'a dit, avec les cours Florent notamment. Vous avez même monté des pièces de boulevard sur France Télé, où le casting a été composé que par des animatrices et des animateurs du SAS public. On rêvait tous de voir Catherine Sellac et Nelson Montfort jouer du Fédo. Olivier Mine l'a fait. Merci pour ce moment. Alors, je vous propose ce midi de reprendre un peu votre idée, je vais vous donner des noms de pièces de boulevard qui existent vraiment. Et en fonction de ce que le titre vous évoque, vous me donnez une ou plusieurs personnalités qui pourraient être au casting.
D'accord.
Vous comprenez ? Ouais. Et comme je sais que vous êtes une personne bienveillante, Olivier Mine, hein, et que mes choix sont de titres sont volontairement cruels, oui, oui. Vous avez trois jokers, des jokers baptisés. Tout le monde a son mot à dire. Et dans ce cas, vous pouvez refiler le bébé à Anne ou aux autres chroniqueurs.
Qui sont beaucoup plus cruels.
Qui seront peut-être moins gênés. Premier titre, alors c'est des vraies pièces hein, de tête de boulevard. Qui pour jouer Madame sans gêne à la télé ?
Comme animatrice, vous voulez dire ?
Animatrice, animateur, voilà, votre
Madame
casting.
Madame sans gêne, elle est en train de jouer pour l'instant la môme crevette au théâtre et elle joue remarquablement. C'est un rôle très compliqué, c'est Nora Malagré. Je la verrais bien également dans Madame sans gêne.
Ah, pour Madame sans gêne.
C'est une pièce de Victorien Sardou.
J'avais Valérie Damidot. Parce que quand elle arrive chez vous, c'est
Valérie,
le bordel quand même.
Valérie pourrait être très bien une Madame sans gêne aussi, tout à fait.
Pour jouer dans Le Roi.
Alors dans Le Roi, forcément, là je vois Michel Drucker, c'est Le Roi.
Ouais. J'avais
je dirais
pas
même
de
l'Empereur,
réponse.
Mais comme la pièce évoquée est Le Roi, je dirais
Michel Drucker.
Oui, vous voyez qui ?
Non, j'avais pas d'idée pour Le Roi, non. Je vous laissais, c'était gentil, donc je vous le laissais. Potiche.
Potiche.
Là où Cyril Hanouna répondrait Karine Ferry, vraisemblablement, vous.
Oh non, Potiche, si on se réfère vraiment à la pièce.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant. C'est que Potiche, en fait, c'est donc une pièce qui a été interprétée par
Jacqueline Maillan
et qui montre en fait qu'une femme considérée comme Potiche par son mari reprend l'entreprise et se révèle être en fait une femme de
tout
caractère.
Sauf une
vous pouvez arrêter absolument. De parler de Ségolène Royal, s'il vous plaît.
Je dirais donc pour Potiche, quelqu'un qui a l'air d'eux alors qu'elle n'allait pas. Rapido, comme ça. Je ne vois pas.
Merci, Olivier. Peau de vache.
Peau de vache. Ah bah alors là, je suis sûr que vous pensiez Nora Malagré.
Non, j'avais Karine Le Marchand.
Ah,
parce qu'elle
ah,
passe sa vie en caressé finalement.
C'est vrai que Karine, elle a pas sa langue dans sa poche.
C'est votre point de vue là pour le coup.
Mais de là à ce que soit peau de vache, je dirais pas ça. Mais
non, elle en caresse dans son émission, c'est tout.
Ah, c'est par rapport à. Dans
oui, bah, je me permettrai pas, Olivier. J'ai envie de faire carrière.
Quel enfoiré.
Les deux vierges.
Les deux
là, je vous devance, j'ai Charles Consigny et Christine Angot. Pour le coup,
grave. Ah, moi, j'avais les Bogdanov.
Les Bogdas, c'est pas mal.
C'est
plus,
pas
ça.
Mal.
Je dirais les deux vierges. C'est quand même compliqué comme ça au débeauté.
C'est compliqué. Non, je vous avoue que c'était pas une interview facile.
J'ai pas d'idée comme ça, mais parce qu'elles sont toutes vierges finalement.
C'est ça. Ce que vous disiez juste
toujours l'idée de cette espèce de symbolique.
De donner la magie.
Évidemment, on n'est pas en couple, on n'a pas de tout comme ça.
Le bluffeur. Et là, moi, j'ai Michel Drucker, qui chaque hiver se plaint d'arrêter, menace d'arrêter pour récupérer une heure d'antenne de plus l'année suivante. Beaucoup de bluff à chaque fois.
Je dirais que c'est inhérent à la fonction d'animateur.
C'est
le bluff,
ça,
finalement,
obligatoire.
Ne serions-nous pas tous des bluffeurs ?
C'est le grand bluff.
Et enfin, le dernier.
Génial. C'est le grand bluff, c'est génial. C'est ça.
Le dernier, la main.
Qui c'est qui imitait Patrick Sébastien ?
C'est moi.
Vas-y, fais-le.
C'est le grand bluff, c'est génial, c'est Patrick Sébastien. Je sais faire que ça.
Non, mais c'est bien. Tu le tiens bien.
Je sais faire aussi. Bonjour, c'est Stéphane Bern.
Arrête.
C'est la même voix à chaque fois.
Il faut le dire. Que de talent dans cette émission. Je suis subjugué.
Allez, la dernière, vraie pièce toujours, la main courante. J'ai Gilbert Rozon, personnellement.
Et moi, je pensais à Rosenblatt par rapport à Fait entrer l'accusé, mais bon.
Voilà, Olivier Mine, si un jour vous remettez ce genre de projet en route à la télé, n'hésitez pas à penser à moi, parce que moi, quand je vais me mettre au projet de sport en route, hein, je penserai à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nous sommes très heureux de recevoir un auteur, un romancier, un conteur, un passeur d'histoire, un ancien cancre, celui qui a raconté son enfance dans le champ de personnes, celui qui a remporté le prix Renaudot, celui qui est sur la première liste du prix Goncourt dévoilé cette semaine. Il est également animateur de télé, s'est produit sur scène dans un one-man show. Ce midi, Daniel Picouli est notre invité.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour, je me voyais pas avoir tant de qualité.
Attendez, elle a pas fini. Hein.
Je sais, oui, c'est bien. Mais bon,
c'est important profite. Pour vous d'être sur la première liste du Goncourt avec ce livre 90 secondes. Qui...
Ah oui, non mais ça c'est énorme ça. C'est-à-dire que tout de suite vous avez plein d'amis.
Ah
vous
oui.
Vous recevez, ça se voit au SMS, au texto et tout ça. Oui. Vous avez tout de suite plein de gens qui vous remercient. Vous les connaissez pas, mais c'est pas grave. Ils aiment. Tant mieux. Voilà. Non, au-delà de la plaisanterie, c'est un coup de chapeau de ses pairs. C'est-à-dire, ce sont des auteurs, des écrivains qui ont lu votre roman. Et vous
êtes combien sur la liste de concours ?
15. On est 15.
Donc vous avez une chance sur 15.
J'avais une, voilà, c'est ça, parce que la caractéristique d'une liste, c'est qu'on peut en sortir. Vous avez raison de me le signaler gentiment.
Quand vous retournez sur votre parcours, Daniel Piccoli, vous êtes le 11e d'une fratrie de 13, vous éprouvez de la fierté, parce que sinon, il y avait la possibilité de monter une équipe de foot avec deux remplaçants. Ça devait être dur quand même pour vous à table. 11e sur 13, autant que le plat arrive jusqu'à vous avez mangé froid toute votre enfance.
Ben ouais.
Vous étiez 15.
Ouais, 15.
Ça ne doit pas être évident de faire des repas pour 15 personnes.
Ouais, enfin, ma mère faisait tout brûler, donc ça, c'était réglé.
Dans un livre, vous décrivez un clafoutis de votre maman, oui. Tout était brûlé.
Oui, tout était brûlé, puis ça s'appelait un clafoutis à rien. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. il restait, de toute évidence, il restait des noyaux qui n'auraient pas dû y être. Et puis c'est tout. Et puis elle faisait brûler. Non mais c'est vrai. Et longtemps, j'ai cru que le goût de brûler, c'était un épice qui est rajouté. Parce qu'il y en avait partout. Elle réussissait à en mettre partout. Enfin, c'était Ducrot avant tout. Elle avait inventé un épice. Voilà.
Mais l'essentiel dans cette famille, c'est qu'il y avait beaucoup d'amour. En fait. C'est qui a été fondateur pour vous, Daniel Piccoli.
Ah oui, c'est quelque chose dont on ne sait pas quand on est gamin que ça vous forge à ce point-là. Et ça, c'est vrai que l'amour, le courage. Mon père, il a quand même 21 ans, il est le jour de ses 20 ans, quand il épouse ma mère qui est veuve et qui a 9 enfants. C'est-à-dire que...
Ah, elle avait déjà 9 enfants.
J'aime bien, vous pouvez faire... Ah ben oui, oh ben oui. Ben oui, moi,
elle avait 9 enfants.
Oui, ma mère était veuve à 27 ans. Elle a eu son premier bébé 15 ans, 3 mois. Parce que c'était réglementaire, on ne pouvait pas avant.
C'est toute l'histoire que vous racontez dans Paulette et Roger, le prénom de vos parents.
Oui, voilà, c'est
amour. Elle avait 9 enfants.
9 enfants.
Quand on pense qu'il y a des mecs qui hésitent à s'engager parce qu'elle a un gamin.
Allez-y les gars, mais parce que...
Il y a un message derrière ça.
Non mais c'est les 8 premiers les plus difficiles. Prenez un 9 directement, vous allez voir.
Et après, ils ont eu 4 enfants.
Ouais, 4 enfants, mais lui, il avait 21 ans et il se sentait capable d'élever ses gosses, qui d'ailleurs étaient d'une autre couleur que lui, parce que mon père était mulâtre, et qui ne voyait pas où était le problème.
Vous étiez nul en orthographe, Daniel Piccoli, vous l'avez raconté dans un seul en scène. Il paraît que dans les salons du livre, les parents vous montrent du doigt en disant, t'as vu, lui, c'était un camp qu'il a réussi.
Oui, oui. Ah, oui,
c'est un modèle.
Ah oui, ils viennent voir, ça les rassure. Bah, viens voir, je vais te montrer un truc. Viens voir, regarde. Tu vois, le monsieur, là, il faisait plein de fautes, comme toi, et même encore plus que toi. Et maintenant, il est sur la première liste du Goncourt. Les gosses, ils savent pas ce que c'est le Goncourt, ils se sauvent en courant, ils se disent, c'est ça l'avenir, j'arrête tout de suite. Donc, ça, c'est. Voilà, ça.
Vous
ça
dites qu'il y a un instituteur qui a été gentil avec vous, qui vous a donné confiance, et un autre qui a été horrible, qui vous a dit, tu es bête à manger du foin.
Oui, c'est ça, exactement. Et ça, ça a été un moment formidable, si je puis dire. C'est que j'avais un maître, M. Brûlé, qui était un dieu pour moi. Et ce gars, je faisais des fautes d'orthographe à foison. Il arrivait à me dire c'est pas grave, bon, on voit pas tes histoires en rédaction, dommage, elles sont cachées par les fautes d'orthographe, mais ce type avait un rapport très humain avec ça, c'est-à-dire il n'associait pas la bêtise et les fautes d'orthographe. Et un jour j'ai eu un remplaçant parce que M. Brûlé a dû être malade, et j'ai vu que M. Brûlé c'était un être exceptionnel. Parce que j'ai vu un gars qui m'a tout simplement, il m'a attrapé avec mes 26 fautes 3 quarts, une espèce de score moyen que j'avais en dictée. Quoi.
Parce sur 5 lignes quand même.
Oui, mais la dictée, c'est un truc complètement dingue. Vous faites 5 fautes, vous avez 0.
Ouais.
Vous en faites 27, vous avez 0.
Ouais, ouais.
Mais c'est la logique de l'enseignement. Quand vous êtes gamin, vous dites, plus vite j'ai fait 5 fautes, plus vite je suis tranquille. Ouais. Donc, moi, c'était réglé dès les premières lignes. Je faisais mes 5 fautes, après, pompe promenade, j'écoutais la dictée, c'est tout ce que je faisais. Donc, et ce type m'a... par rapport à ça, il m'a attrapé, il m'a mis sur le bureau, mon cahier de dictée autour du cou, il a essayé de m'humilier. Et il m'a dit, effectivement, faut être bête à manger du foin. Il a oublié une chose, c'est que ma mère était dysorthographique. Ah, ma mère, c'était dingue. Hein. Moi, je raconte, et c'est vrai, que chez nous, on ne tombait pas malade parce que ma mère, elle ne savait pas écrire les maladies. Et quand on devait donner le mot d'excuse, le gars, il ne savait pas ce qu'on avait. Donc, c'est vrai, elle m'a sauvé. Et pareil pour faire les courses. Et ce gars, donc, il me plante là-dessus. Et il avait oublié, donc ma mère était dysorthographique. Donc ce gars était en train de dire que ma mère était bête. À 10 ans, vous dites ça à un gosse, il y a deux choses. Il veut vous tuer. Ouais. Il veut vous tuer, c'est normal. Bon, comme j'avais un petit peu de retenue, j'ai décidé de défendre ma mère, de montrer qu'on pouvait faire des fautes d'orthographe et pas être bête. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « La faute d'orthographe est ma langue maternelle ». J'ai défendu la langue maternelle de ma mère en faisant des fautes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faut comprendre ça dans la psychologie des gosses. Quand j'ai fait de la formation pour enseigner, j'ai dit, vous n'avez pas des bébés en éprouvette en face. Quand vous parlez comme ça, quand vous employez des mots de ce type-là, vous parlez peut-être de son père, de sa mère, de quelqu'un dans sa famille. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Si vous faites attention à ça, déjà, ils auront un peu plus de respect pour vous. Donc, je ne l'ai pas tué.
Daniel
Daniel Picouli, vous avez fait des études de comptabilité parce qu'on vous a exclu du système scolaire général.
Oui, oui, absolument.
Vous avez été déçu de ça ?
Non, mais c'était. Non,
et après, vous êtes devenu prof d'économie.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais parce qu'en troisième, moi, j'ai voulu faire des lettres, parce que je faisais des belles rédactions, tout ça. Et alors, le gars, on avait un sergent recruteur, on passait devant lui, et il vous passait en revue comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tes parents, ils ont combien d'enfants ? 13. Le mec, il cherchait où il fallait noter ça. Ton père, 13,
ça rentrait pas dans le cadre.
Ça rentre pas. Ça dépend, ça dépasse. Quoi. Voilà. Et le gars, il me dit, oh là, attends, études de lettres, ça amène qu'à être professeur. Moi, je trouvais ça absolument extraordinaire. J'ai proposé quelque chose plus en rapport avec tes capacités sociales.
Enfin, carrément,
le gars. Oui, délire, le gars. Oui, en plus, j'habite dans la cité. Il me dit, construction métallique ou comptabilité. Le mec avait tout compris. Donc, j'ai pas fait construction métallique parce que chez nous, on est des chaudronniers. Donc, c'est sérieux. Et donc, j'ai fait compta. Mais j'ai fait compta parce que j'avais rien d'autre choix. Genre, on me prenait dans aucune fac, on me prenait nulle part.
Et après, vous êtes devenu professeur d'économie.
Ouais, je suis devenu. Oui, bah, à une époque où, moi, quand mon père est décédé, bon, j'étais en doctorat de fiscalité. Et à cette époque-là, on téléphonait, on était maître auxiliaire, et deux jours après, on était dans une classe avec des gars qui n'avaient même pas six mois de plus que moi, parfois. Donc, et je me rappelle de ma formation pédagogique, parce que les enseignants ont une formation pédagogique. Je suis allé voir la surveillante générale qui m'a dit : est-ce que vous avez déjà enseigné ? Non, ne le dites surtout pas aux élèves.
Fin de la formation.
C'est une formation express. Donc, première chose que j'ai dit au gars, je n'ai jamais enseigné, mais je préviens, si dans cette classe, il y a un seul élève qui ressemble à ce que j'étais en terminale, je le jette.
Il paraît que quand les gamins vous disaient on est fatigué, qu'est-ce que vous leur disiez ?
Ah, on est fatigué, ah, oui, ça c'était un truc comme ça. Oui, j'ai beaucoup enseigné en banlieue. Et ils me disaient, oh, si on ne fait pas l'interro, là, on est fatigué. Je dis, d'accord, on ne fait pas. On ne travaille pas. Je veux juste vous dire qu'en ce moment, dans des lycées autres que celui-ci, d'autres travaillent à devenir votre chef. Ah. Vous voulez devenir un auxiliaire de ces gens qui travaillent aujourd'hui ? Bossez pas. En ne bossant pas, vous fabriquez des chefs à venir. Allons-y. Vous êtes des producteurs de chefs à venir. Vous aimez ça ? Ouais, non, ben alors on bosse. On est d'accord ? On l'a fait cet interro. Ah ouais, monsieur, on l'a fait cet interro. Voilà.
La fierté.
Michael Quiroga a des choses à vous dire, Daniel Picouli.
Alors oui, d'emblée, je vous préviens, un Antillais qui fait le portrait d'un autre Antillais, j'aime autant vous dire qu'elle va pas aller vite, la chronique. Alors pour recevoir l'un des ultramarins les plus talentueux, voici un peu de musique antillaise comme il se doit.
Chevalier de Saint-Georges.
Chevalier Saint-Georges, symphonie opus 11, Allegro, ouverture en ré majeur, l'amant anonyme, cette musique signée du Chevalier Saint-Georges, métis, né en Guadeloupe, compositeur, violoniste, militaire, escrimeur émérite, cette symphonie numéro 11. Et je vous ai eu, hein. Vous attendiez à du Cassave, eh ben non. En tant que chroniqueur, antillais de surcroît, quand on doit faire le portrait de Daniel Picouli, moult fois primé, on est forcément un peu fébrile. C'est comme si on était cuisinier et qu'on doive interviewer le grand Vatel. Vous voyez, aussi comme si on était mauvais et qu'on doive interviewer Giroud.
Alors, faut arrêter avec Giroud.
Faut arrêter avec Giroud, s'il te plaît. Un but en 11 matchs, on peut faire des vannes encore ou pas ? Daniel Picouli, vous êtes né à Villemomble en 1948. Hein, vous grandissez donc en banlieue, milieu de 12 frères et sœurs, on l'a dit. À cette époque, votre père est le seul à avoir le droit de lire à table. Mm-hmm. Et quand il lisait, alors ça effaçait les rides sur son front.
Ouais, ça.
Et c'est pour ça que vous avez voulu devenir écrivain, pour effacer, faire disparaître les rides sur le front de votre père.
Et déplisseur de front.
Déplisseur de front.
C'est un voilà. Bon job.
Good job, ouais.
S'il avait fallu attendre l'apparition des rides pour vous pousser à écrire, heureusement que vous n'avez pas grandi chez Ariel Dombal ou chez là, parce que sinon vous n'auriez jamais écrit une ligne. Alors quand vous étiez petit, vous étiez amoureux de Marie-Antoinette. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Il n'y avait pas YouPorn. Oui, alors pour les ados, faut expliquer. Marie-Antoinette, hein, pas YouPorn, ça ils connaissent. Marie-Antoinette, c'était la reine de France, donc la femme de Louis XVI, le couple souverain qui a fait son dernier repas au Quick. Bon, tant pis.
C'est.
Vous imaginez des histoires de princes, de princesses avec un dragon, vous épousiez la princesse. C'est bien, parce que moi j'en connais qui ont épousé le dragon. Les raisons pour lesquelles vous en étiez amoureux sont moins nobles, hein, que celles des chevaliers. Vous, c'est parce que vous aviez lu quelque part qu'elle avait un tour de poitrine de 106 cm.
Absolument, absolument.
Franchement, tomber amoureux juste pour ça, faut vraiment aimer le lait, quoi. Alors, fils de prolo, on vous oriente d'abord vers la comptabilité, mais ça ne suffit pas à tuer votre goût pour l'écriture. Votre vie, finalement, c'est un peu des chiffres et des lettres. Vous êtes fan de foot, particulièrement de Garrincha, le Brésilien. C'est normal parce que bon, le foot, c'est un sport de prolo, hein, c'est pas un sport de riche. Non, les riches ne jouent pas au foot. Parce qu'un match, ça se joue à 22, il n'y a pas un riche au monde qui a 21 amis. Donc ça, c'est pour ça qu'ils jouent au tennis. Hein. Comme ça, ils jouent avec leur femme, leur fille, leur fils, enfin des gens qui sont obligés, quoi. Alors vous aviez déploré que la littérature manque de héros noirs, hein. Vous en vouliez d'ailleurs à Alexandre Dumas parce qu'il n'avait pas mis un noir dans les mousquetaires.
D'un autre côté, tant mieux, parce que s'il y en avait eu un, je suis sûr que c'est lui qu'on aurait fouillé en premier quand les ferrets de la reine ont disparu. Sans doute la raison pour laquelle vous avez redonné vie au chevalier Saint-Georges, fils d'un noble et d'une esclave, dans un ouvrage. Alors moi, j'ai une théorie quand même selon laquelle Alexandre Dumas s'est tout de même inspiré de Saint-Georges pour façonner D'Artagnan et les autres, puisque le père d'Alexandre Dumas était militaire sous les ordres de chevalier Saint-Georges. Alors bon, là, il n'y a pas de vanne, je voulais juste montrer que j'ai de la culture. Vous êtes venu pour votre nouveau roman, 90 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à la montagne Pelée en Martinique pour carboniser Saint-Pierre. La montagne Pelée, le 8 mai 1902, c'est 30 000 morts en 90 secondes. Un bilan à faire pâlir d'envie Bachar el-Assad. Alors, avec ce roman, vous êtes en lice pour le Goncourt. Belle revanche pour le Landru de la grammaire, c'était votre surnom. Si vous avez eu 26 fautes trois quarts dans une seule dictée, ça vous a fait une note de moins 6. C'est rare quand même. Alors, je me demandais, l'Académie Goncourt, c'est comme Parcoursup, je veux dire, ils tiennent compte de tout le dossier scolaire ou juste du dernier ouvrage? Parce que sinon, c'est mort. Hein. Bon, vous n'êtes pas terrible en orthographe, mais c'est moins grave que de faire des fautes de syntaxe. Hein. En tout cas, moi, c'est ça. Qu'est-ce que je dis toujours? Allez, merci pour votre patience et bonne chance pour le Goncourt.
Bonjour Laetitia Milo.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Laetitia Milo, vous êtes une actrice très populaire.
Merci.
On vous a vu dans Plus belle la vie, dans Danse avec les stars. Vous avez aussi un feuilleton aussi qui a cartonné sur TF1.
La vengeance aux yeux clairs.
La vengeance aux yeux clairs aussi.
Oui.
Et puis là, vous êtes heureuse parce que vous avez eu un bébé.
Voilà.
Ouais.
Félicitations.
Merci.
Et ça a été un peu difficile parce que vous avez révélé que vous aviez de l'endométriose. Donc voilà, c'était une victoire, ce bébé.
Ça a été 10 ans de combat, ça a été très long. J'ai été énormément soutenue par le public aussi. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, elle est là et j'arrive toujours pas à y croire en fait. Quand je vous parle, je me dis tiens, ça y est, elle est là. Et j'espère juste que ça donnera de l'espoir, un peu d'espoir à toutes ces femmes qui ont envie d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas à cause de cette maladie.
Là, votre livre, c'est Ma clé du bonheur aux éditions First. Donc vous donnez des conseils en fait pour être heureux.
Mais écoutez, pour tout vous dire en fait, ce livre, il n'était pas prévu. Je suis en train d'écrire un autre roman dans un autre domaine. Et c'est vrai que lorsque je suis tombée enceinte, je me suis dit, tiens, c'est génial. Enfin, j'ai obtenu mon plus grand bonheur. Et ça m'a donné envie d'écrire. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre... Alors, je n'ai pas raconté ma grossesse hein, dedans. Enfin, j'ai un petit chapitre sur la grossesse, mais ce n'est pas le principal sujet. Je me suis dit, je suis heureuse et j'ai envie de donner mes astuces, des conseils pour essayer de donner,
pour ceux
donner
qui nous
l'envie
écoutent,
de positiver.
Ceux qui vont pas bien, parlez-leur, Laetitia Milo.
Parlez-nous.
Là, il y a quoi faire dans l'équipe.
On est foutus.
Non, en fait,
j'ai abordé plusieurs domaines, donc que ce soit la vie privée.
Alors déjà la vie privée, donnez-nous des conseils.
Dans le couple ou pas ou...
Non, bah, déjà pour être en couple.
Oui, on aimerait
être en couple. Écoutez, je suis pas non plus. Agence matrimoniale, je suis pas sexologue, je suis pas psychologue non plus. J'ai essayé de donner ma clé du bonheur qui marche sur moi.
Alors
j'espère qu'il y en a plein.
Oui, alors mais deux.
C'est très simple au quotidien, j'en sais rien. Alors dans la vie quoi, privée,
ouais,
du coup dans
privé,
le couple.
Privé.
J'essaie de donner des petites astuces pour que
se brosser
le
les
couple
dents.
Ça bah, n'empêche le sourire, j'en parle.
Bah oui.
Se brosser les dents, c'est très important. Ouais. Le sourire est très important. Voilà.
Ouais, moi,
quand
je souris
quand
beaucoup,
vous êtes ouvert au monde. Et... En fait, voilà. Par exemple, c'est vrai que je mets en avant qu'il faut plus s'ouvrir au monde, avoir le sourire aux lèvres, enfin, voilà, être heureux, c'est-à-dire donner l'impression d'être heureux, on attire les gens. Tandis que si on est négatif, si on est aigri, si on sourit jamais, si on parle jamais à personne, évidemment personne va venir vers nous.
Je me suis fait plaquer par mon ex qui s'appelait Laetitia. Bah, j'aurais dû vous choisir vous.
Pourtant Laetitia normalement c'est un prénom qui veut dire joie. Donc
bah, joie pour elle, mais joie à moi effondrée.
Donc être positif en fait Laetitia Milo, quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, ne pas se plaindre en fait.
Ouais. Mais regardez à côté de soi, regardez, il y a bien pire que soi. Voilà.
Ouais, c'est
y a
vrai,
mieux.
Moi je suis entourée de deux. Suffit que je tourne la tête à droite et à gauche.
Non, mais mieux. C'est vrai, il y a mieux, il y a pire. Voilà, donc regardons l'avenir, essayons de se projeter.
Et puis quand on a des. Parce que vous avez eu des grosses épreuves, vous avez perdu le premier homme que vous aimez de maladie très jeune. Voilà, ça a été très très dur ça.
Ça a été une grosse épreuve.
Vous l'avez accompagné jusqu'au bout.
Mais que lui a surmonté aussi malgré tout, c'est-à-dire il a gardé le sourire jusqu'à la fin.
Et c'est lui qui m'a donné cette, cette positivité. En tout cas, c'est lui qui m'a dit « te laisse pas abattre, souris à la vie et tu verras, tu souriras ».
Vous avez passé beaucoup de temps aussi avec votre maman qui était infirmière quand vous étiez petite, dans, dans un hôpital.
Oui.
Parce qu'il n'y avait personne pour vous garder, donc vous alliez lui tenir compagnie.
Mais j'adorais en fait. J'adorais aussi aller la voir à son travail. D'ailleurs, j'ai choisi de faire mon stage au collège dans son hôpital. Et c'est vrai que j'allais voir les personnes et je parlais avec eux. Je leur racontais ma journée à l'école ou à la danse, parce que je faisais de la danse à l'école à l'époque. Et donc, ça, je voyais une lueur dans leurs yeux qui
vous avez même dit que vous auriez pu faire du social, en fait. Vous
bah
avez
ouais.
hésité.
Ouais. J'ai beaucoup hésité parce que ça me faisait chaud au cœur que...
Parce que vous avez une générosité en vous naturelle, Laetitia Milo, en fait.
Bah
ouais.
Oui. Faut l'assumer. Naturelle, ou peut-être que c'est dû encore une fois à mes parents.
Parce que vos parents ?
Mais parce qu'ils m'ont élevée dans cet objectif-là, peut-être aussi.
Il y a des moments où vous n'allez pas bien quand même, Laetitia Milo.
Il y a des moments où je ne vais pas bien, mais je dis dans le livre encore une fois. Il y a des moments, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai eu beaucoup de moments où ça n'allait pas bien. Mais encore une fois, il faut regarder à côté. Il y a pire. Il y a pire, donc il faut se battre. Au contraire, je veux dire, l'endométriose, comme aujourd'hui, voilà, c'est un sujet pour lequel je me bats et une maladie pour laquelle je me bats, pour toutes ces femmes qui sont dans le silence. Au début, en fait, on croit qu'on est seule. On croit que... Parce que, voilà, je me suis sentie seule il y a des années et je me suis dit, bah, de toute façon, ça sert à rien que j'en parle, personne n'est atteint. Mais en fait, non, à partir du moment où j'ai commencé à en parler en 2013, je me suis aperçue que des millions et des millions et des millions de femmes en étaient atteintes.
Bah, moi, j'ai de l'endométrie au stade 4, c'est le stade le plus élevé.
Bah, voilà.
Donc, ça fait déjà 2 sur 3.
Eh bien, voilà. Ouais. Bah, vous voyez, ouais. Comme quoi, on dit 1 femme sur 10, bah, regardez la preuve sur ce plateau. Mm. Donc, 3 à 6 millions de femmes, et le chiffre est minimisé, malheureusement. Mais donc, du coup, voilà, ça m'a donné envie de me battre pour ces femmes, parce qu'elles sont finalement dans le silence, et il faut qu'on les entende. Et comme je répète sans arrêt, mais c'est une phrase que j'adore, c'est « toutes les femmes ne désirent pas forcément avoir un enfant ». Mais elle désire ne plus souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat, pour essayer de trouver des solutions au niveau de la douleur.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Laetitia Milo, quand ils vous croisent ?
Souvent, je croise beaucoup de gens qui me disent merci. Merci d'en parler. Et j'ai juste envie de leur dire que c'est normal. Et je fais, je me battrai, je continuerai jusqu'au bout. Et en fait, j'ai juste envie de rassurer un petit peu aussi le public, parce que beaucoup de femmes se disent, on a l'impression de faire des petits pas de fourmis. Mais non. Non, on ne fait pas des petits pas de fourmi, parce que dans l'ombre, on se bouge. Les bénévoles de l'association Endo-France, dont je suis marraine, se n'arrêtent pas. Et je vous jure qu'on est en train de faire des pas de géant en ce moment.
Vous donnez des recettes de cuisine aussi, Laetitia Milo.
Ouais,
ça fait partie du bonheur aussi.
C'est salade d'endivonnois. Bon, ça va,
c'est très
dur.
Bon pour la santé, les endives.
C'est pas très dorade en croûte de sel.
Non, j'ai voulu sortir une recette avec des endives parce que c'est bon pour la santé. Oui. Voilà. Et on les oublie souvent.
Et ma mousse de mangue.
Mousse de mangue.
Ouais. Mmh. Ouais. Et jouer sur la détox.
Ah. Alors après, vous l'avez déjà fait.
C'est une énigme pour Anne et pour nous.
Vous l'avez déjà tenté ?
De quoi ?
La détox.
Une détox.
Oui. Ah ouais, bah, je suis en plein dedans.
C'est vrai ?
Enfin non, je suis une détox d'alcool là en ce moment.
Vous dites, pour ma part, j'apprécie de suivre cette cure avec de la pomme. Je trouve qu'on peut varier. Alors vous faites une journée de pomme en fait ?
3 jours. Normalement, c'est bien 3 jours. Alors après, effectivement, si on tient pas trop, on peut faire une journée pomme, une journée carotte, une journée raisin, ou alors aller une journée pomme. Mais bon,
mais Anne, tu connais
ça. Si vous voulez tous les bienfaits, c'est 3 jours du même aliment. Monodiète.
Monodiète, tu es là avec la pomme, c'était ton truc.
Moi, je fais qu'une journée, moi.
C'est génial,
c'est hyper dur.
Alors c'est dur, mais au bout du 3e jour, enfin donc le 4e jour, vous avez plus de boutons, vous avez le ventre plat, vous avez une peau claire, vous avez l'impression de respirer.
Mais combien de pommes ?
Respirer et vous nettoyez vos intestins.
Autant de pommes que tu veux.
Alors attention, ce n'est pas fait pour maigrir. Voilà, c'est fait pour nettoyer son organisme.
Et vous avez mon astuce teint rose.
Et faites-le avec l'accord du médecin, parce que sinon après...
Mon astuce teint de rose, si vous voulez dire adieu à votre peau grisâtre et terne, Léa,
J'ai l'astuce. J'ai l'astuce qu'il vous faut. À jeun, buvez le jus d'un citron dilué dans un verre d'eau tiède.
Mais c'est ce que je fais tous les matins.
C'est le meilleur truc que je connais.
C'est pour ça que vous avez tous un super beau teint.
Ouais, c'est pour ses cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
les cheveux? Mais
il y a marqué l'astuce aussi.
C'est quoi l'astuce?
L'astuce Benache. Alors il y a 8 pages.
Si c'est l'huile d'olive, ça va être chaud.
Ah, il y a petit truc pour se disputer sereinement.
Ah, ça oui.
Ah, ça, ouais.
Ça c'est pas mal. Ça, il faut
se disputer sereinement.
Oui. Voici quelques petits trucs pour éviter de déterrer l'âge de guerre trop souvent. Ouais. Souvenez-vous que vous aimez votre conjoint. Ne ruminez pas, dites les choses sur l'instant et gentiment. Ah ouais. Ne soyez pas blessante, c'est totalement contre-productif. N'accusez pas l'autre, ne généralisez pas. Dites, tu laisses toujours la cuisine en bazar et pas, peux-tu débarrasser la table, s'il te plaît? Non, il faut dire.
Oula.
Non. Non, c'est pas débarrasser la table.
Ouais.
C'est peux-tu débarrasser la table, s'il te plaît. Et puis faire la lessive, la vaisselle, et puis
différer la discussion si vous sentez que la moutarde vous monte au nez. Allez faire un petit tour, vous serez plus calme pour parler après. Ne soyez pas rancunier en amour. Lorsque vous quittez le matin en allant déposer un, dites-vous je t'aime comme si c'était la dernière fois que vous vous voyez.
Et oui. Ça, c'est, ouais. Parce que ça, en fait, ça peut, ça dur, arrive tellement. C'est vrai qu'on a l'impression que voilà, on laisse installer la routine, les habitudes, et puis finalement on part, on dit allez ciao à ce soir. Puis si ça se trouve, il nous arrivera quelque chose. Ouais. Et puis voilà,
il y a ma playlist.
On n'aura pas dit je t'aime pour une dernière fois.
Il y a ma playlist Lover.
Ah ouais. Oh. Ah, il y a quoi dedans?
Onde sensuelle de M, Crazy in Love de Beyoncé. Ouais. Ma Benz de Brigitte.
Ouais.
Bang Bang de Nancy Sinatra.
Ah oui, magnifique. Et encore, j'ai été obligée de faire des shortlists. Hein, c'est dommage parce que vous pensez bien que mes playlists
elles durent des heures.
Ouais, ouais, grave.
Mes astuces pour ne pas craquer comme la plupart des gens.
Lucky Peterson.
Ah ouais.
Un bon blues.
Ouais.
Le Zizi de Pierre Perret.
Oh là là. Comme la plupart...
Quel est le rapport avec Lucky Peterson?
Regardez Léa.
Voilà. Et puis après, tu te demandes pourquoi elle t'a quitté, t'as les dix.
Voilà.
Comme la plupart des gens, je suis parfois sous pression au travail, donc j'essaye de relâcher la tension en me déconnectant à la maison. Si un sujet professionnel vous tracasse, essayez de ne pas en parler non-stop à la maison.
Et au travail, enfin au travail ou dans la vie privée ou tout ça, mais au travail, c'est vrai que beaucoup de gens n'osent pas dire non. Voilà. Mm-hmm. Et c'est vrai que je dis, c'est simple, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est que des astuces simples.
Il y a aussi, si le plan A ne marche pas, il reste encore 25 lettres de l'alphabet. C'est pour toi, Jérémy, ça.
Ah ouais, mais moi, je connais que le plan Q.
Là, on me dit que dans le public, il y a deux fans qui sont là.
Oui.
Il y en a une qui vient exprès de Rouen pour vous voir. Bah venez au micro.
Oh là là,
alors là, ça y est.
Laurent Gentleman.
Mais bien sûr.
Vous êtes fan de Laetitia Milo alors?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est un bel exemple. C'est vraiment une personne généreuse, humaine. Et elle m'a touchée en plein cœur. Voilà, tout simplement.
Bon, bah ça, c'est joli.
Je vous jure, je ne l'ai pas payé. Hein.
Merci Laetitia Milo d'être passée nous voir. On rappelle votre livre, Ma clé du bonheur aux éditions First. Merci beaucoup.
Merci à vous.